Ips, ups.
Ips, ups. Ips. Ips. Ups. Ips.
Ips.
Ips. Ups. Ups.
Salut à tous, on est vendredi 5 avril et il est 10h10. Comme le printemps se fait attendre et pour vous faire patienter encore un peu aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler de voyage. En plus, vous allez voir, l'actu s'y prête. Alors tout d'abord, je déplore l'absence de Benoît, qui a une vie et avec un travail. Du coup, nous ferons sans lui pour cette fois.
Eh, hey, français, c'est un gros con raciste. D'abord, ceux qui disent ça, c'est pas tous des français. Et lui. Et puis d'autre part, je suis allé en vacances. En Belgique et en Suisse, eh ben on n'est pas plus cons que certains. On ne fait pas de politique parce qu'on trouve que la France, c'est un pays libéral. C'est un pays libéral parce que, par exemple, s'il y a un truc, les ouvriers qui sont pour, qui veulent le dire contre au gouvernement, qui ne sont pas d'accord, eh ben ils font une demande de manifestation et ils l'obtiennent. Voilà. C'est un pays, la France libérale, on peut être en colère, il faut demander gentiment. C'est tout. Et puis je vois la mauvaise foi des gens, je vois bien tout le monde critique le président de la République tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pourtant c'est pas tout le temps le même. C'est bien de la mauvaise foi, ça.
Et voilà moi ce qui me vient à l'esprit à travers l'humour de Benoît. Allez, trêve de plaisanterie, on écoutera aujourd'hui Mélanie Gavalda qui nous parlera des chemins de rando du Saint-Africain, puis c'est Étienne qui nous parlera de grimpe et Damien qui nous raconte un voyage à vélo. Ensuite, on testera ensemble une nouvelle formule musique avec une nouveauté inédite juste avant le son hebdomadaire. Et pour finir, Chloé nous fera l'honneur d'un petit agenda tout en couleurs, pas comme le temps. Donc tout d'abord, afin de se décontracter et de rêver à ce qui nous attend cet été, écoutons Mélanie, qui est chargée de communication à l'Office du Tourisme à Saint-Afrique, nous parler d'un projet de sentier pédestre. Vous avez peut-être entendu le détail de certains parcours sur nos ondes, et puis bien sûr parce que randonner, même sur une petite distance, pour la journée ou la demi-journée, c'est déjà un voyage.
Alors le projet en fait des sentiers, on va l'appeler comme ça pour faire plus court, c'est un projet qui est très ancien sur la communauté de communes et qui a démarré donc en 2002, donc ça commence à faire quelques années. Donc à l'initiative, c'est Jean-Luc Mallet, conseiller général du canton, qui a été vraiment le moteur de ce projet, qui s'appelait d'ailleurs au début les sentiers patrimoniaux et sentiers de l'eau. Donc l'idée, c'était de valoriser le patrimoine saint-africain, donc de la communauté de communes, ça a toujours été un projet intercommunal, en s'appuyant sur la pratique de la randonnée, qui concerne aussi bien les résidents saint-africains que les vacanciers qui viennent en Sud-Aveyron. C'est une pratique assez importante dans les séjours qu'on trouve ici, chez nos vacanciers. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre en place un réseau de sentiers de randonnée maîtrisés par la collectivité, donc sans problème de foncier, d'autorisation, et surtout de qualité, qu'ils soient vraiment suivis, balisés, qu'on n'ait pas de problème. Après aussi, qu'on puisse le promouvoir auprès de nos visiteurs et nos randonneurs sans aucun scrupule et aucun doute. Donc dans l'idée de répondre à la demande des vacanciers, de répondre aussi à la demande des locaux, de leur proposer toujours plus d'offres de loisirs et de faciliter aussi la découverte du patrimoine par un moyen complètement vert, on va dire un maximum en pratique environnementale, qui est donc respectueux, donc de découvrir ce patrimoine par la marche en fait. Donc voilà d'où c'est venu. Ensuite, c'est le parc naturel régional des Grands Causses qui a été retenu pour porter l'étude de ce projet et derrière pour le réaliser. Et donc tout ce travail depuis 2002, donc l'étude et ensuite la sélection, a abouti en 2007-2008 avec la réalisation de 11 circuits VTT qui ont ensuite été complétés en 2011 avec un 12e circuit VTT et une collection de 6 circuits randonnées pédestres et un circuit équestre. Donc il y a quand même eu toute la phase de 2002 à 2011 pour aboutir au final à du papier pour aller randonner. Donc ça a été très très long, mais tous nos sentiers qui existent maintenant, qui représentent à peu près 400 km, sont tous inscrits dans le plan départemental des itinéraires de randonnée. Donc ils sont vraiment reconnus aussi d'un point de vue départemental et ils sont suivis. Voilà, donc ça c'était vraiment dans l'idée d'avoir les circuits de randonnée bien maîtrisés, comme je le disais tout à l'heure, et de qualité. Donc ce travail, évidemment, il a été fait avec le parc, comme je le disais, mais aussi avec nos personnes ressources du territoire, donc les associations de pratiquants de ces activités, donc le VTT avec le Vélo Club Saint-Africain, la randonnée avec tous les clubs qu'on a sur la communauté de communes, chapeautée par notre référente locale sur le comité départemental, vu qu'on a une personne qui est référente sur le Saint-Africain. Et pour l'équitation, alors on n'avait pas vraiment d'association qui existe sur l'équitation loisir. Donc du coup, là, c'était plus un passionné, une personne ressource locale qui nous a aidés pour créer ce circuit-là. Donc on a abouti à nos fiches. L'idée, c'était de créer des fiches individuelles. Donc un des points importants qui nous a vraiment guidés aussi dans la réalisation des fiches, c'était de créer des parcours accessibles aux grands pratiquants comme aux débutants dans l'activité, que ce soit de la randonnée pédestre ou VTT. Donc on va trouver des boucles avec peu de dénivelé, avec peu de kilomètres, pour que tout le monde trouve en fait le sentier qui correspond à ses capacités physiques, à ses attentes et à ses envies. Un aspect aussi pour continuer dans cette idée de parcours abordable à tout le monde, donc c'est pour ça qu'on a fait des fiches sur support IGN et avec un descriptif précis pour que chacun, une fois qu'il a sa petite fiche, puisse se débrouiller et partir en autonomie, faire sa randonnée. Il peut aussi partir en sécurité tout en respectant les règles évidemment de la pratique sportive qu'il a choisie. Nos parcours sont balisés avec un système de bornes numérotées qui permettent, si toutefois il y avait un accident malencontreux dans la pratique, de pouvoir être facilement identifiable géographiquement pour les services de secours.
Merci Mélanie, la musique que vous avez entendue en fond est tirée d'Electric Sufi, un album de Dafer Youssef que j'affectionne particulièrement. Ah, ah. Vous pourriez me dire, il est bien sympa celui-là, mais avec le temps qu'il fait, on va s'éclater dehors sur les sentiers. C'est pour ça que, sans plus tarder, nous parlons d'un autre voyage, loin, un grand, en avion et tout ça. Mais pas seulement de voyage, car j'attire votre attention sur l'événement de ce week-end, la Coupe du Monde de bloc. Le bloc, c'est une discipline d'escalade particulièrement intense et courte. On n'est pas encombré par les cordes lorsqu'on pratique en bloc. C'est le type d'escalade que l'on retrouve généralement en salle, avec l'escalade sportive, la couane, pour les initiés. Ces dernières disciplines sont très à la mode et grimper sont pas mal médiatisées. Mais il y a d'autres manières de grimper, de la grande voie à la course d'arête ou la cascade en passant par le terrain d'aventure. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder avec Étienne qui nous fait partager le récit d'un voyage au Tchad. Écoutons plutôt. Donc la Coupe du Monde de bloc, c'est une pratique spécifique de l'escalade, et il y a plein d'autres manières de pratiquer l'escalade. Il me semble que tu allais faire un voyage ces derniers temps qui est assez intéressant et qui est assez éloigné finalement de cette pratique de l'escalade qu'on va pouvoir voir ce week-end.
Et ouais, donc on est parti, nous, au Tchad, c'était en février, enfin mi-janvier, début février, c'était avec Olivier Aubin qui était un peu l'initiateur de ce projet-là. Et donc l'objectif de ce projet-là, c'était d'ouvrir et d'explorer trois massifs qui sont Enedi, Tibesti et Burku, dans le but de savoir si on pouvait développer l'escalade déjà là-bas et une forme de tourisme un peu différent, quoi.
Vous êtes parti combien de temps? Quand c'était encadré? Comment?
On est parti un gros mois. Ouais, on a atterri. On a rejoint Marabé qui était là, qui avait déjà tout prévu, donc ça c'était top, quoi, parce que on n'a pas eu grand chose à organiser, nous, une fois qu'on était sur place. On a atterri 3 heures après, les 4x4 étaient là et on est parti pour l'Enedi dans un premier temps, quoi, donc au nord-est. Alors l'arrivée dans l'Enedi, ça a été un truc fort parce que on avait peu d'infos concernant le rocher, à part l'expédition North Face d'il y a quelques temps, là, d'un an et demi, qui était passé avant nous, et qui avait dit que le rocher était plus ou moins mauvais, qu'on ne savait pas trop s'il y avait réellement un potentiel là-bas. Et donc on était tout le temps un peu dans le doute, quoi. Déjà, tu traverses entre Faya et Fada, tu fais 2 jours de désert où tu vois rien, tu vois pas un rocher, tu te dis mais quand est-ce qu'il va y avoir quelque chose, quoi. Et en fait, en arrivant dans l'Enedi, après 3-4 jours de piste, on est arrivé dans un endroit qui s'appelle les 40 portes, et là c'est une plaine qui s'étend sur des kilomètres devant toi, et là c'est bon, c'était confirmé que ouais, il y avait quelque chose de gros ici, parce que on a commencé à voir toutes ces tours là qui se dressaient et des lignes à grimper, il y en avait ouais, des milliers, quoi. Donc ça a été fort, ce moment là où on a vraiment découvert l'entrée du massif et qu'on a vu qu'il y avait effectivement des possibilités qui étaient infinies, quoi, à cet endroit là pour grimper, quoi. Et dans un cadre sensationnel, quoi. C'est l'Enedi, c'est plus sahélien que saharien. Donc c'est de la savane, des étendues avec des petits arbres, des grandes plaines très vastes, et puis ces rochers là qui rouges qui montent, c'est ouais, impressionnant, quoi.
Entre ces trois massifs, vous avez pas mal grimpé. Donc selon une technique de grimpe très différente de ce qu'on peut voir, de ce qu'on va voir ce week-end à Millau, à savoir donc les mecs sont pas encordés en bloc et ils réceptionnent sur des tapis prévus à cet effet. Vous, c'était assez éloigné de ça, parce que forcément c'est des voies qui sont hautes, donc on peut pas assurer sa sécurité avec un tapis passé quelques mètres de hauteur. Et donc vous étiez équipé pour ça, et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, et puis peut-être d'une voie qui t'aurait marqué?
Ouais, alors nous on a grimpé sur coinceur essentiellement, donc c'est un type d'escalade qu'on appelle terrain d'aventure. Et donc en fait, ce qu'on a fait principalement, c'est de l'ouverture en grande voie, donc partir du bas sur des lignes qu'on a repérées, et donc ouvrir et découvrir la voie au fur et à mesure, en posant des protections qui sont amovibles, qu'on ne laisse pas dans le rocher, comme ça peut être le cas au Tarn ou dans la Jonte, où on voit des anneaux ou des pitons, ou des spits. Nous, on pose des coinceurs, donc c'est des protections qu'on rentre dans les fissures, et quand notre second passe derrière nous, il les enlève, et ce qui fait qu'on laisse aucune trace dans le rocher, quoi. C'est aussi un rocher qui s'y prête particulièrement, donc c'est aussi pour ça qu'on a pu le faire. Moi, une autre voix qui m'a beaucoup marqué, c'est la plus dure là, que j'ai été amené à ouvrir avec Pascal Mao et Michel, qui est un guide quoi, de haute montagne. Et voilà, on était parti pour faire un truc plutôt facile. En repérant du bas, on s'était dit que c'était un niveau débutant plus, quoi, et qu'on allait se faire une belle balade là, sur ses faces. Et au final, passé la première longueur, qui était comme on croyait, quoi, assez facile, on s'est retrouvé dans un truc beaucoup plus dur. Bien plus.
Alors, excuse-moi, je te coupe juste une seconde pour les auditeurs qui savent pas trop. Une longueur, c'est à peu près une cinquantaine de mètres.
Ouais, une longueur, c'est ça. C'est une cinquantaine de mètres. Ça dépend de la corde qu'on a, mais quand on ouvre en grande voie, on a 50 mètres de corde. Donc, on va essayer d'aller au bout de ces 50 mètres pour établir une longueur, et on monte par section de 50 mètres, en fait.
Pour faire le moins de manipulation de cordes possible, parce que ça prend énormément de temps dans des positions pas forcément confortables. C'est autant de facteurs qui rendent la pratique très différente de ce qu'on va rencontrer en bloc.
Oui, ouais, c'est sûr. C'est vraiment une pratique où on s'engage un peu plus hein, en termes de sécurité, surtout sur une pratique comme on l'a fait, nous, sur coinceur, parce que c'est pas plus dangereux, mais il faut être sûr de ses protections, il faut vraiment prendre le temps d'assurer sa sécurité. Donc tout ça, c'est des paramètres qui prennent énormément de temps, et il y a une logistique beaucoup plus lourde qu'en bloc, quoi, parce que on doit trimballer énormément de matériel.
Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, on en était au bout de la première longueur de cette voie, ouais. Et puis là, vous aviez l'air de déchanter un peu.
Ouais, on déchantait un peu parce que c'était difficile et... Difficile, c'était pas non plus extrême comme difficulté, hein. Ça a ouvert à 7B+, donc ça commence à être un bon niveau. Mais en fait, ouais, ce qui était impressionnant, c'est que la ligne paraissait facile d'en bas, et quand on a commencé à attaquer la deuxième longueur, c'était beaucoup plus compliqué. La gestuelle, c'est compliqué énormément, les protections étaient un peu plus difficiles à poser, et on s'est retrouvé tout de suite dans une difficulté qui était... un ton, voire deux tons au-dessus de ce qu'on imaginait, donc on a été un peu surpris. Par contre, après, la bonne surprise, c'est que ça a été un itinéraire ben, très très classe quoi. Moi c'est, je pense que c'est la plus belle grande voix que j'ai été amené à faire là-bas quoi.
Merci beaucoup Tienou, et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur Vimeo où une bande-annonce est disponible sur cet expé avec quelques images grandioses afin de vous mettre l'eau à la bouche avant la parution d'un documentaire réalisé par l'équipe au cours du voyage. Pour finir, je voulais vous emmener vers une forme de voyage différente. Donc après un petit voyage à pied, court un voyage plus long dans un pays lointain, j'ai eu l'envie de vous faire découvrir le voyage à vélo. Ça peut aller très loin, un vélo, comme en témoignent Damien et Delphine, qui ont bouclé, eux, le tour du monde et qui ont fait une projection à la bibliothèque municipale du Créa hier soir à Millau. On écoute Damien nous parler de leur projet Planète D.
Voilà, Planète D, c'est l'ensemble de nos expériences. Là, je suis venu en particulier présenter un des films qu'on a tiré de notre premier grand voyage, qui a été un tour du monde. On est parti au printemps 2006 avec mon amoureuse Delphine, pour une durée indéterminée et en ayant largué toutes les amarres derrière nous, avec vraiment le vœu de s'essayer à la vie nomade, tu vois, en toute informalité, en toute liberté. Sans échéance, sans date de retour, sans contrainte. Alors on avait déjà fait un petit voyage de test l'année passée, en 2005, avec Delphine, parce qu'on n'avait ni l'un ni l'autre aucune expérience du tandem, puisqu'on voyage à vélo tandem, et puis parce qu'on voulait un peu tester le rapport d'équipe que ça pouvait créer entre nous. Alors pour l'anecdote, on a fait un grand tour en Europe, autour des Alpes, on a cassé le vélo, on a pris la foudre sur la tente, il a plu la moitié du temps, et quand on est rentré à Grenoble chez nous, Delphine m'a dit bah, « c'était formidable, quand est-ce qu'on part faire le tour du monde ?» Ça te donne une idée du personnage aussi qui m'accompagne. Et donc en 2006, on est parti pour ce voyage. On a commencé par descendre en Espagne sans trop savoir où le vent nous porterait. Puis ensuite, on s'est attaqué à l'Amérique du Sud, on a traversé le continent sud-américain en diagonale. Et on est allé ensuite dans le Pacifique. On a beaucoup vadrouillé en Asie du Sud-Est. Et je suis venu à Millau pour présenter le dernier épisode d'une trilogie qu'on a consacrée à ce périple. Et le film donc commence au sud de la Chine et nous ramène jusqu'en France à travers l'Himalaya, le Tibet, le Népal, l'Inde et puis toute la traversée de l'Europe, on va dire du sud de la Turquie via les Balkans jusqu'à la France. Voilà, c'est le programme de la soirée ici.
D'accord. Et donc à travers un voyage comme ça... très atypique quand même, on peut dire. Qu'est-ce que tu retiens sur le plan... Est-ce que c'était super sportif? Est-ce que c'était une grande expérience humaine?
C'est les deux, mon capitaine. Bah, bien sûr que c'est sportif. C'est quand même pas rien de se déplacer à vélo en autonomie complète. Ça veut dire un tandem qui fait une centaine de kilos, sur lequel on a tout ce qui est nécessaire à notre quotidien, et en plus ce qui est nécessaire à faire des films et de la photo. Mais c'est pas un objectif hein, d'en faire une épreuve sportive, même si on est tous les deux très branchés sport, montagne et qu'on aime, on aime suer un coup, on aime se fatiguer. C'était pas du tout l'écriture du projet, ça a été l'écriture d'aucun de nos projets de voyage. C'est avant tout une expérience humaine. Alors c'est sûr que ce tour du monde, c'était vraiment le premier voyage au long cours, le premier baptême, on va dire, de cette vie nomade qui est effectivement une expérience humaine, d'une richesse inouïe. Pourquoi ça tient finalement à peu de choses? C'est au carrefour d'un détachement matériel très fort, parce que la route t'apprend à te débarrasser de tout ce qui n'est pas vraiment essentiel à ton bonheur, jusqu'à un point où finalement tu te rends compte que même en vérité ce qui est essentiel à ton bonheur, tu l'as à l'intérieur du cœur et des tripes, c'est même plus dans tes sacoches. C'est une expérience humaine parce que partout où on est allé, partout où on va quand on voyage, en particulier à vélo, l'accueil des autochtones est exemplaire, et ça a été pour moi une façon de me réconcilier avec le monde des hommes, parce que quand on s'apprêtait à prendre le départ pour cette aventure, on était encore beaucoup beaucoup sous l'influence des médias, je vais appeler institutionnels, donc des médias qui dressent un portrait, je crois encore aujourd'hui, très négatif de la société des hommes au sens large, et des médias qui se focalisent beaucoup beaucoup sur les mauvaises nouvelles et très très peu donnent la parole aux bonnes nouvelles. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, et c'est d'une certaine manière ce contre quoi on essaye de faire un modeste contrepoids avec Delphine, parce que partout où on part vadrouiller comme ça en autonomie, on reçoit un accueil sans pareil. On n'a jamais été inquiété, on n'a jamais souffert d'insécurité ni de maltraitance. On a été adopté par des familles. Et quand je dis adopté, c'est pas juste une formule, tu vois. C'est presque au premier degré. Il y a des gens en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Asie, qui nous ont appelés au bout d'un mois de cohabitation, leurs enfants français adoptifs, quoi. Donc tout ça pour dire que sur le plan humain, tu atteins une dimension de sagesse, de sérénité, qui je pense ne se trouve pas dans une vie sédentaire. Par la force des choses, hein, quelque part. Quand tu es dehors, quand tu es sur ton vélo, où tu peux voyager à pied, mais j'entends par là un voyage par moyen de déplacement sobre, doux, respectueux de l'environnement comme des personnes. Au-delà de cette école du dénuement que j'évoquais au début, tu te recentres sur toi, tu te recentres sur le lien humain, parce que une galère, une panne de vélo te force à aller toquer à une porte, que tu vas susciter la curiosité des gens, comme appeler à leur aide et à leur disponibilité, et que sans même y penser, sans que ça soit véritablement prémédité, tu réinvestis le vrai lien humain qui devrait, je crois, présider à toute communauté. Et du coup, en un an de voyage, tu as l'impression d'avoir acquis et vécu 10 ans d'expérience, de sagesse. Et tu reviens, grandi d'une certaine manière, je crois, et tu reviens conforté dans un optimisme qui aurait pu être un petit peu malmené par le portrait médiatique qu'on fait du monde aujourd'hui.
Excellent. Est-ce qu'on parlerait un peu des escales, au sens large du terme, j'entends, où est-ce qu'on passe la nuit ce soir, comme, on va décider de faire une pause, alors peut-être quelques jours, quelques mois, et du rapport humain dans ces escales?
Ouais, la longueur d'une escale, elle ne s'anticipe pas vraiment, si tu veux, c'est vraiment c'est une improvisation au quotidien. Toute la journée, en fait, tu vis dans l'instant présent et le voyage te recentre dans l'instant présent. Donc, tu oublies le passé parce que tu capitalises sur un passé de rencontres et d'expériences, mais tu cesses de te prendre la tête et de te préoccuper du futur. Tu vis dans l'instant présent et au moment où il s'agit de planter la tente pour le soir, tu peux très bien être en pleine nature, auquel cas tu redécouvres avec bonheur un lien avec les éléments. Et qui n'est pas toujours confortable d'ailleurs, parce que des fois tu pédales des jours et des jours sous la grêle, sous la pluie, dans le vent, mais n'empêche que c'est vivifiant et que ça te rappelle que tu n'es pas une machine, que tu n'es pas juste un bureaucrate ou une tête à penser, tu es un corps qui vibre, qui sent, qui a besoin du rythme du soleil, qui a besoin d'entendre le vent dans les arbres, ou alors tu es près d'habitation, tu es près d'un petit village, tu es sur les terres d'un fermier et tu vas prendre contact, et souvent, dans notre expérience en tout cas, c'est très léger et informel au début, c'est juste est-ce qu'on peut planter la tente pour la nuit, et puis là il y a des coups de cœur qui se produisent. On dit souvent avec Delphine que par comparaison avec tomber amoureux, qu'on tombe en amitié. Et on tombe sur des gens comme ça qui, au bout de 2 heures de discussion, bah, finalement, nous proposent la chambre des enfants qui ne sont pas là. Et puis, au lieu de rester une nuit, on reste 3 jours. Et puis, au lieu de rester 3 jours, on reste 1 mois et demi. Et puis, de fil en aiguille, on tisse des liens fraternels, voire familiaux, très, très forts, avec des personnes qui, au départ, sont des inconnus complets. Parfois, on ne parle même pas de langue commune. Et pourtant, la communication non verbale se met en place et le lien humain, il prédomine sur tout le reste.
D'accord. Est-ce que si tu avais... je pense que c'est le genre de choix que tu t'autorises pas à faire, mais si tu devais choisir une région du monde dans laquelle pratiquer le voyage à vélo est particulièrement confortable par leur relief géographique, les gens, peut-être le trafic routier aussi, ce serait laquelle si tu devais conseiller à quelqu'un qui s'essaye?
Allez, c'est très difficile d'en isoler une, surtout en mêlant les 3 critères que tu donnes qui sont très pertinents, hein, relief, accueil et trafic routier. Finalement, je me demande si j'irais pas directement en Turquie, en Bulgarie, ou probablement Delphine dirait Nord-Afrique, Maghreb. Je me souviens aussi qu'on a très très bien été accueillis en Argentine, par exemple, un pays latin avec un sens de l'accueil très très développé. Puis finalement, assez peu de relief, donc pas trop compliqué. Encore une fois, en s'adressant à un débutant, parce que il faut pas que le voyageur néophyte se fasse peur, mais en vérité, les régions plates, c'est très ennuyeux à vélo, hein. vaut mieux que ça soit rock'n'roll et que ça bouge. Bon, n'empêche que dans un pays comme l'Argentine, dans un pays comme la Turquie, les locaux nous ont toujours traités comme si on était des parents éloignés qui revenaient comme ça d'un périple et pas du tout comme si on était des inconnus.
D'accord. Eh ben, je suis très content de t'entendre dire ça. Et puis, je confirme aussi à travers ma petite expérience à vélo, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. On a été accueillis aussi comme des amis ou voire des parents, ouais, de la famille, et dans ces régions, en Bulgarie notamment,
ouais,
et puis le sud de l'Europe de l'Est a toujours été vraiment très très sympa. Et donc, pour finir, peut-être, est-ce que vous avez des projets de nouveaux voyages, des nouvelles horizons vers lesquels aller pédaler?
Bah, si tu veux qu'on parle de projets à venir, il va falloir me consacrer une émission d'une après-midi. Déjà là, tu vois, je viens présenter un film qui date, un voyage qui date de 2006-2008 et un film que j'ai sorti en 2009. Entre-temps, on a eu une première petite fille, on est parti avec elle, on a traversé le nord de l'Allemagne et le Danemark pour aller en Islande et on a roulé 3 mois en Islande. Donc elle avait 9 mois, elle était dans la remorque. On a fait d'autres petits projets à droite à gauche. Là, on vient d'avoir une deuxième petite fille. Et comme on est pour la justice et l'égalité dans les traitements, eh ben, on emmène les deux enfants cet été traverser les Pyrénées espagnoles. Bon, à côté, moi, un peu comme ça par hasard et par la force des choses, je suis devenu auteur-réalisateur. Donc, je vis aujourd'hui de mes films et de mes livres. Donc, je commence aussi à faire des films sur d'autres aventuriers ou sur d'autres thématiques. Bon, n'empêche que des voyages en long cours, il y en a plein dans les tiroirs. Probablement retourner vivre au Chili aussi. On a fait une petite incartade chilienne pendant notre tour du monde et on est resté avec l'envie d'en découvrir plus. Enfin voilà, tout un kaléidoscope de projets, ouais, sans aucun doute.
Concernant votre voyage, ces petits films, on peut les retrouver sur Internet, j'imagine?
Oui, on a un site Internet qui s'appelle Planète D. L'URL, c'est planetedtoutattaché.eu comme Europe. Et puis on a un Facebook qui relaye les informations aussi. Le Facebook, c'est planète.d, il y a un piège. Et moi, quand je ne suis pas sur la route ni sur un vélo, je suis très souvent derrière un ordinateur pour monter des films ou écrire des bouquins. Donc je réponds toujours aux sollicitations sur Internet et c'est un plaisir de le faire.
Merci Damien de m'avoir accordé ces quelques minutes à peine débarquées de ton trajet. À ce stade de l'émission, d'hab, je vous parle de musique. Et c'est ce qu'on va faire, mais sous une nouvelle forme. Donc solennel, un fil là. J'ai le grand plaisir de vous annoncer le retour des CD de la semaine avec un générique qui ressemble à ça.
A, B, C, D.
Stop !
C'est le CD de la semaine sur Radio Saint-Afrique.
The Compact Disc of the Week.
CD calé.
CD caféiné.
CD lire.
CD E, F, G, H, I, J, K.
CD conneries.
CD lectable.
CD de la settimana.
CD localisé.
CDI.
Ça date en or.
CDD.
C'est désastreux.
We like, we share with you.
Les CD de la semaine sur Radio Saint-Afrique.
Avec, pour la semaine prochaine, 3 disques que vous allez entendre clairsemés dans la prog 3 fois par jour un morceau, me semble-t-il, et qui sont la Fanfare en pétard, Électrique Bazar et Moussuté. Pour la semaine prochaine, aujourd'hui, nous allons nous attarder quelques minutes sur le premier, la Fanfare en pétard et leur nouvel album, Le Monde est Curieux, et c'est Gaston qui va nous en parler quelques instants. Dans un premier temps, j'aurais souhaité te demander de te présenter, toi, en tant que personne, et puis nous parler de ton investissement au sein de la Fanfare en pétard.
Bah alors, je m'appelle Gaston, et je chante et je joue du saxophone alto dans la Fanfare en pétard. C'est comme son nom l'indique, une fanfare, donc on a les instruments d'une fanfare, à dire des cuivres et des percussions, et on est 6, et on fait une musique qui tourne autour du dub, du rap, du jazz et un petit peu de l'électro.
Et les autres membres, du coup, les 5 autres personnes de la fanfare, tu les as rencontrés?
Alors, moi je vais les citer déjà, il y a Guillaume qui fait du sous-bassophone, Nico qui fait de la grosse caisse, Sam qui fait de la caisse claire, Polo qui fait de la trompette, j'ai oublié personne, je crois pas. Je les ai rencontrés entre 2003 et 2005, voilà, où, dans un moment où la fanfare c'était assez encore, à géométrie variable, et puis entre 2005 et 2007 on s'est fixé autour de cette équipe, et la musique a aussi pas mal changé à ce moment-là pour évoluer vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu un tout premier disque en 2000, si je dis pas de bêtises, en 2003 je crois, et qui a été très peu pressé, qui n'a pas été distribué, et la musique était bien différente, c'était plus jazz-funk, Et puis ensuite, il y a eu un album en 2009 qui s'appelait Crame la Mèche. Et là, 2013, c'est Le Monde est Curieux.
Est-ce que tu nous parles un petit peu de cet album ?
Bien sûr, ouais. C'est un disque assez court. Voilà, on a il est un petit peu plus rap, on va dire, que celui d'avant. Qu'est-ce que je peux en dire encore ? C'est le premier qu'on fait intégralement tous les six, entièrement tous les six, puisque c'est vrai que l'album d'avant, il y avait un peu une synthèse de morceaux qui préexistaient à l'arrivée des derniers membres de l'équipe. Et puis là, il y a vraiment une création de à partir de rien, quoi. Donc voilà, c'était un peu nouveau pour nous. Puis on s'est servi de l'expérience du précédent pour essayer d'utiliser au mieux les outils du studio et pousser un petit peu plus loin la post-production et la production des morceaux, quoi. Pour simplifier, il y avait donc une phase un petit peu, comme je disais, à géométrie variable vers le début, où on faisait encore beaucoup de rues, qui était entre, disons, 2001 et 2007. Et de cette phase-là, nous restait des morceaux qui sont parus sur l'album de Crame la Mèche de 2009. Et donc il y avait c'était un peu un album de transition, on va dire, parce qu'il y avait un peu de l'ancien et du nouveau. Pour celui-ci, on est parti de zéro, ouais.
Et est-ce que à travers tous ces rebondissements qui sont, la vie de, je pense, beaucoup de groupes de musique, il faut qu'ils trouvent une place, une identité. Est-ce qu'il y a une personne notamment qui est un peu le fil conducteur dans l'idée, dans l'influence musicale, peut-être qui a amené à ce que vous faites aujourd'hui, ou même pas spécialement?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une personne qui est là depuis le début, c'est Christophe, qui fait du saxophone, qui a amené aussi beaucoup de compositions. Et c'est vrai, lui, il est là depuis les origines, quoi.
Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose à propos de cet album ?
Qu'est-ce que je peux dire ? On a un clip qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle qui est sur le titre Noir comme l'or, qui est en ligne depuis très peu de temps, et il vaut le détour, donc j'invite les gens à aller le voir.
Et bien le mieux, c'est qu'on se l'écoute tout de suite, et c'est le troisième morceau de ce nouvel album, la piste s'appelle Noir comme l'or.
Je suis cerné ici, j'ai assiégé par les chiffres et les papiers. Appuie sur off, tu le temps. Extension ton capital glande, tu le sens. Pas de jugement de valeur sur le vécu. Plus le temps, je tue le temps. Car plus de passé, plus de passe-temps. Je lance mes flèches pendant que les frigos pleuvent des tours sur les caisses de keuf. Pendant que les dieux et les maîtres se prennent des molotovs chez les grecs, je laisse ma cible m'atteindre. Et la cible me permet de ne pas m'éteindre. J'ai la banane quand les télés s'éteignent et que le vide remplit ton domaine. Mon avenir est noir comme l'or, mort comme les boules aux œufs d'or. Je t'offre le temps comme corps mon dort lorsque le soleil se lève pour les endormis. Comme dans la rêve, j'ai des milliers de 6 milliers de 5 milliers de vies, milliers de toi, milliers de moi, milliers de voix, monopolisant mon crâne de piaf. Mon avenir est noir comme l'or. Plus le temps, j'tue le temps. Plus le temps, j'tue le temps. Plus le temps, j'tue le temps. Car plus de passé, plus de passe-temps. Mon avenir est noir comme l'or. Plus le temps. Plus le temps, j'tue le temps. Plus le temps, j'tue le temps. Car plus de passé, plus de passe-temps. Je compose ma cure, balance quelques verbes de trop. Mélange les mots, anime ma paranoïa, dure de se casser leur tempo. Leur mouvement alimente ton abago, notre mouvement affame tes mots de tête afin que tu guettes l'instant dans le berceau. J'ai les balles qu'il faut pour faucher les heures creuses. Remplis les miennes avec mon propre vide. Montez les idées baladeuses et mon toc. Dans cette époque, évite les plumes cupides. Dehors, c'est le monopoly, c'est la monnaie qui domine la trotteuse. Prends garde à ton temps. Investis dans les minutes sans commencement. Investis dans les minutes sans dépassement. Mon avenir est noir comme l'or.
On vient d'entendre la fanfare en pétard avec Noir comme l'or sur son dernier album. Vous inquiétez pas, on entendra d'autres morceaux toute la semaine avec Electric Bazar Company et Moussuté et les Jovents. C'est les CD de la semaine. Et tout de suite, on teste la formule courte du son hebdo.
Le son hebdomadaire.
Le son hebdomadaire.
Le son hebdomadaire.
Le son hebdomadaire. Le son hebdomadaire. Hebdomadaire.
C'est Jean-Christophe Le Sou, connu sous le nom de Wax Taylor, qui y passe cette semaine avec une piste de son premier album intitulé Tolls of the Forgotten Melodies, paru en 2005, après avoir travaillé pendant des années à combiner le hip-hop orchestral, le down-tempo et le trip-hop. Il produira 3 albums de plus, mais c'est la piste Where My Heart's At de son premier album que je voulais vous faire partager aujourd'hui.
No matter the year, not of the year, listen in the hip hop. No matter the place, not of the place, listen in the hip hop. No matter the time, not of the time, listen in the hip hop.
This is dedicated to the hip hop dreamers.
No matter the year, not of the year. No matter the place, not of the place. No matter the time, not of the time. No matter the year, not of the year. No matter the place, not of the place. No matter the time, not of the time.
How we gonna start this topic off?
Started with the hip hop from the beginning when it was real. When it had substance with your heart, you could feel it.
Be ill with shit, fuck shaking asses. Belt, you need the fashion when riding with everlasting.
Forever ready, from day one I rock steady like a backspin. Pumping tracks with satisfaction.
Mass gasping in, y'all done fell asleep. I remember people pumping up Han Solo in they Jeeps.
Headphones on the school bus every day, screaming, fuck the police. By NWA,
E-S-T-M-A-T, hold the mic like he. Extra B main source, breaking Adams indeed.
Apocalypse 91, public enemy before I shut him down. Chuck D was the remedy.
Not of the year, not of the year. No matter the place, not of the place. No matter the time, not of the time.
Hip-hop's been shot by an MC spitting nursery rhyme alphabetics.
Somebody call the Amalam. They got shot up in the dance, man. I wish I was in France, Axelmatic and Vans.
And take a glance at the current situation at hand. The crunkness dominating like a plague in your homeland.
Man, he giving you his own nightmare of gun claps in the air that swear to tear you where.
However, the point is we deliver. We get up in your skin like a sliver and give you the real shit.
Doesn't change, most kids nowadays say the same thing. Like I'm hating, man, they look at me strange.
Like an endangered animal, eating MCs like a cannibal. They screaming, but I'm not understanding.
Man, demanding them, I'm not. This is for the rarest ear. What we study from our peers, man. No matter, 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 matter.
No matter the year, not of the year. No matter the place, not of the place. No matter the time, not of the time.
Idea of a tone production, he would just sawed back and forth, just scratched the instrument to such a point that it drive everyone that listened to it absolutely insane. He had no conception of the instrument, the instrument, the instrument, the instrument.
Yeah, wax the crowd, I'm really proud and loud. Knock him off with the beeswax.
Taylor, you can't.
Yes, he can.
And if you've just joined us,
it's essential that you learn the art.
That's a good flavor.
It's only in the development stage at the moment.
C'était Wax Taylor qui nous a concocté cette piste sur son premier album et tout de suite on laisse la place à Chloé qui va nous rappeler un petit peu les activités possibles et imaginables. Je parle bien sûr de l'agenda.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Mais qu'est-ce qu'on va devenir?
Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est terrible, terrible.
Ne cherchez plus. Tout est dans l'agenda de Radio Sainte-Afrique. Des spectacles.
Des concerts.
Des impros.
Des expos.
Et même des films. C'est tout ça, l'agenda de Radio Sainte-Afrique.
C'est terrible, terrible.
Et c'est maintenant.
Ce soir, au lieu-dit, Phil et Timoun vous attendent pour venir les défier aux fléchettes. La rumeur parle même de champions toutes catégories. Venez nombreux y participer à 19h au lieu-dit à Sainte-Afrique. Ce soir toujours, à la salle des fêtes de Camarès, la troupe de théâtre de Saint-Sever-du-Moustier vient nous présenter la pièce de Lionel Messé, Le Contrat Flamand. Les bénéfices soutiendront l'association du Centre de Loisirs, alors venez nombreux ce soir à 21h à Camarès. L'association Gardarem Lo Larzac tient son assemblée générale à la Jasse du Larzac aujourd'hui à 19h. Un apéro buffet sera suivi de la projection du film Gardarem Lo Larzac. Demain, au lieu dit, venez participer à l'opération Dépression hivernale sort de ce corps, qui touche beaucoup de gens en ce moment, je confirme. C'est à partir de 11h, juste après un bon marché où vous ferez le plein de vitamines. L'association Myriade vous propose demain également de préparer une spécialité marocaine, à savoir un tagine d'agneau au poulet. Ils font ça à Myriade, samedi à 14h. C'est bon pour la dépression, paraît-il. La route de la laine passe demain par Sainte-Afrique pour sa 3e édition. L'association Étoile Filante pour la valorisation de la laine a décidé de faire une halte au Petit Carré d'Art, lieu qui se prête parfaitement à accueillir une conférence et un spectacle. Rendez-vous à 15h pour la conférence et à 18h pour un spectacle sur la radio, Radio Fil Rouge. C'est ouvert à tous à partir de 6 ans, demain au Petit Carré d'Art à Sainte-Afrique. Et à Vabre-l'Abbaye, demain soir, place à l'Ajustadou pour des danses traditionnelles dans une ambiance conviviale, quel que soit votre âge et votre pratique. Le rendez-vous est donné à 21h à la salle des fêtes de Vabre. Demain toujours, la troupe Mot en scène vient occuper la salle des fêtes de Martrain pour une soirée de théâtre mise en scène par Jocelyne Caumon. Rendez-vous à Martrain à 20h30 demain. La deuxième tournée du Printemps des Bistrots vient frapper demain soir à Buzyns au restaurant Loupaouzadou à 19h. Pour la musique, c'est Budapest, le groupe aveyronnais qui s'y colle. Attention, l'abus d'alcool peut être dangereux pour la société. Évidemment, dur de passer à côté de la Coupe du Monde de bloc ce week-end au Parc de la Victoire à Millau. Aujourd'hui, ce sont les qualifications et demain, ça va envoyer du gros, comme on dit, avec les demi-finales à 14h et les finales à 19h. C'est de l'escalade. Sinon, ce week-end, il y a aussi les Journées européennes des métiers d'art avec plein de conférences, d'expositions sur la reliure notamment. par exemple demain au musée de Millau deux conférences sur la reliure, une à 14h30 avec Evelyne Bray, conservatrice, et une autre à 15h30 avec André Lamblin. Et dimanche, Alain Coren, relieur d'art, commente ses œuvres exposées à l'espace Métiers d'art. C'est 10 rue de la Capelle à 10h30 à Millau. Dimanche à Thiergues à 9h, le collectif Stop Éolienne vous invite à une balade sur le terrain pour mesurer l'ampleur des destructions programmées à Crassous et Canissac. Ces 11 futures éoliennes seront visibles depuis Saint-Afrique. Cette journée sera aussi l'occasion de partager un apéritif et un pique-nique. Mettre fin à l'inquiétude, c'est le thème de la conférence d'un lama tibétain. Non, pas l'animal, l'homme bien sûr, à Saint-Afrique. C'est lundi prochain à 19h30 à la salle des fêtes. L'entrée est à 15 euros, tarif réduit 12 euros. Avant la conférence, à partir de 15h, une expo-vente d'art sacré tibétain sera visible par tous au même endroit à la salle des fêtes. Place aux expositions. Dans le cadre du projet Femmes de la mixité à l'égalité, la bibliothèque intercommunale du Saint-Africain accueille l'expo de Christine Matignon, 40 portraits de femmes au travail. Elle est visible jusqu'au 12 avril. Attention, on se dépêche! Le musée de Millau accueille une expo qui sera visible jusqu'au 29 septembre et qui s'appelle, en trois mots, Radar Volant. C'est gratuit et ouvert à tous, de 10h à 12h et de 14h à 18h. L'espace culture accueille une expo originale jusqu'au 2 juillet prochain avec le partenariat des structures d'accueil de la petite enfance Millavoise en exposant les œuvres des enfants de 18 mois à 2 ans. Sinon, il y a l'expo Au-dessus des terres et dans les caves du monde, c'est toujours à l'espace culture de Millau. Une expo débute aujourd'hui à Millau, décidément ça bouge là-bas. Elle s'intitule « Le livre dans la peau », ce sont des reliures décorées contemporaines d'Alain Coren. C'est à l'espace Métiers d'art jusqu'au 20 avril. Et une autre expo sur la reliure au musée de Millau, « Parure d'histoire », à voir jusqu'au 20 avril. Cinéma, au ciné Le Moderne à Saint-Af ce soir, vous pourrez voir à 21h si vous en avez envie, Japelou et No en VO, c'est un film historique sur la dictature de Pinochet au Chili. Au ciné de Millau et à 20h45 cette fois, vous pourrez voir Amour et Turbulence, 11.6, Jack et le chasseur de géants et G.I. Joe Conspiration. Et au ciné de Camarès, Star 80, ce soir à 21h. Bonne journée et bon appétit à toutes et à tous sur Radio Saint-Af.
Merci Chloé, bon appétit à toi aussi. Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous aurez voyagé un petit peu pendant ce Hipsoups ou que vous aurez eu des idées. Merci à Étienne, Damien, Gaston et Mélanie. Merci Phil, bien sûr, qui assure. Merci à vous tous et rendez-vous vendredi prochain en espérant qu'on fera une émission en débardeur. En attendant, ne vous découvrez pas d'un fil. Écoutez Radio Saint-Afrique et surtout, passez un bon week-end.